C'est jeudi, c'est jour de paye. Profitez-en, il en restera plus ce soir.
Ouais, toutes les paiements
vont avoir été faites. Il en reste déjà plus.
J'ai fait tous mes paiements ce matin.
Tes transferts sont déjà faits, ouais, donc ouais. Faut pas lâcher. C'est pas juste jeudi, c'est une petite journée exceptionnelle dans mon cas. Ça fait précisément 11 ans que j'ai découvert l'amour inconditionnel. Oh. Mon petit gars, mon petit cul, mon Josh, qui fête aujourd'hui ses 11 ans, qui a fait en sorte que je suis devenu père pour la première fois. Ça faisait des années que je voulais l'être. Ça a pris 8 ans à faire. Bon, ça n'a pas été si dur que ça, là. C'était à coup de 30 secondes. Mais au bout de 8 ans, ça a collé.
Non, mais c'est long!
Oui, mais le 30 secondes ou le 8 ans?
Le 8 ans. Okay. Le 8 ans, 30 secondes, écoute, ça t'en reparlerai avec ta blonde, ça me regarde pas.
Puis
là.
C'est non palpable, hein, quand tu veux être père, quand tu veux être mère, tu peux pas t'imaginer que tu vas être capable de créer la vie. Mm. Puis tu le fais, puis à un moment donné, t'es mis devant le fait accompli parce que ça sort de là, puis ils te le mettent dans les bras, puis là, tu dis « OK ». Je ne serai plus jamais de ça jusqu'à la fin de mes jours.
Mm. C'est cute, pareil.
C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Il y a des bouts où...
Est-ce que tu te définis comme papa ou Yannick est encore présent?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, tu sais, il y en a que du moment où ils ont cet enfant-là qui leur appartient dans les bras. Ben, je veux dire, ils deviennent papa, maman pour le reste de leur jour, puis ils se définissent de cette façon-là.
Ah, ça fait partie de ma vie. Très certainement, ça fait partie de ma vie, parce que sans mes enfants, je suis pas trop sûr de où est-ce que je serais. Je sais même pas si je serais encore en radio. Je sais pas si j'habiterais encore au Québec. J'aurais probablement eu idée de sacrer mon camp quelque part pour aller bâtir autre chose ailleurs, là. Je me connais, moi j'aime ça me promener, j'aime ça faire des nouvelles affaires. Mais mes enfants m'ont donné une grosse stabilité puis une raison de rester ici puis de bâtir ici, tu sais. Mm. Fait que c'est ça que ça a changé un peu dans ma vie, mais est-ce que je me définis? Oui. Au moins à 95%, je suis vraiment plus un père que Yannick là, maintenant.
C'est ce soir que tu te fais flusher officiellement?
Non, c'est demain.
C'est demain.
Ouais. Il m'a toujours pas invité à son laser tag.
Mais il te reste une journée encore, là, avec la paix d'esprit de ne pas être flushé comme père.
Ouais, mais tu sais quoi? J'ai encore une chance d'être invité.
Comment ça?
Parce que, tu sais, moi, j'en ai deux qui sont complètement différents, là. J'en ai un qui est le plus vieux, qui est vraiment comme sa mère, là. Tu sais, il me ressemble beaucoup, mais sur certains points, il est vraiment comme sa mère. Puis j'ai mon plus jeune qui est un peu comme moi. Puis Josh, mon plus vieux, c'est sa petite faiblesse, des fois, d'avoir un trop grand cœur. Puis de dire, ouais, tu sais, j'ai flushé mon père. Je pense que ça y a fait de la peine, je vais le reprendre.
Oh! Ouais.
Fait que là, je le dirai pas. Puis là, peut-être que demain, il va me faire une
surprise. Tu vas être invité.
Ouais. Fait que là, je vais pouvoir aller tout tirer, lui et ses amis, au laser tag. Il va sortir de grand gagnant. Ouais, ouais.
Je trouve ça beau comme tout. Mais bonne fête, Josh.
Ouais, bonne fête, Josh. Toi, c'est le quoi? C'est le 30e anniversaire de tes parents de mariage?
Ben, mon Dieu, pas le 30e.
Le 20e?
Je pense que c'est le 18e, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun parce que, bon, j'étais.
Tu te souviens de leur mariage?
Mais je me souviens de leur mariage. Puis je souhaite ça à n'importe quel enfant, dans le sens où il y a quelque chose de vraiment beau dans le fait de voir tes parents s'unir. Puis c'est drôle parce que moi, mon père voulait pas se marier. Puis écoute, quand tu as eu 40 ans, on a fêté sa fête dans la cour. On
avait fait
un gros party. Non, il voulait plus se marier.
Je comprends tellement.
Ben, mon père s'était déjà marié, il faut savoir.
OK.
Moi, j'ai un grand frère qui a toujours été... Et ça m'a pris du temps à réaliser que c'était mon demi-frère, techniquement, parce que encore aujourd'hui, dans ma tête, c'est mon frère, point. Ouais. Il ressemble tellement à mon père, en plus.
Puis c'est ton frère.
Puis c'est mon frère. Il n'y a jamais eu de questionnement là-dessus. Puis on ne l'a jamais senti non plus, en tout cas personnellement. Bref, tout ça pour dire que mon père ne voulait pas se remarier. Puis ma mère, c'était comme habituée, je pense, à ce discours-là. Le fait qu'elle était comme, bon, ben regarde, on se mariera pas, puis c'est correct qu'on a deux beaux enfants, on pense à autre chose. Puis quand mon père a eu 40 ans, le soir de son 40e, ma mère avait fait une grosse fête. Il y avait un chansonnier autour du feu. C'était vraiment gros, là. Puis là, mon père l'avait demandé en mariage. Puis là, ben, c'est ça. On avait eu ça dans les
années qui ont suivi. C'était festif, cette journée-là?
Ben, le 40e?
Ouais.
Ben oui.
Son 40 ans, c'était festif?
Absolument.
Il avait pris de l'alcool?
Non, hey, va pas là. Non, mais mon père, à son 40 ans, il y a eu un shift total. Je sais pas si toi, t'as vécu ça, mais à 40 ans, lui, il a décidé, là, c'est sûr que, bon, lui, fumait depuis quelques années. Il avait décidé qu'il se remettait en forme, qu'il arrêtait de fumer. Il a fait un shift de sa vie complètement. À partir de ses 40 ans, il s'est mis à se lever à 3h30 tous les matins pour être capable d'aller s'entraîner, ben comme du monde au gym avant
3h30?
D'aller.
Oh, oui, mon père. Mais est-ce que j'ai
heures? Non, il arrivait à 7h, 7h30 du travail. Mon père travaillait en tabarnouche.
Ah oui?
Ah oui, oui.
Puis il se levait à 3h30 du matin.
Oui, okay. Pour être sûr d'être capable d'avoir fait tout son training, d'être dans la douche à, tu comprends, 5h15, être au bureau à 6h. C'était vraiment très, très timé comme horaire. Fait qu'il a fait un gros shift. Fait que mariage, santé, tout le kit, il a tout repris en main à ses 40 ans. Mm. Puis ça nous a permis de voir ce mariage-là quelques années plus tard. Mais ça a été... Ça a été vraiment un beau week-end. C'est tout le temps, bien, chaque fois que c'est le long week-end d'octobre, en fait, c'est leur anniversaire de mariage, puis on repense à ce moment-là.
C'est-tu pourquoi les gars, on se klaxonne entre nous autres dans un mariage?
Pourquoi?
Pour prévenir le marié de danger imminent.
T'es vraiment innocent. Tu l'attendais-tu depuis comme un bout de celle-là? T'avais-tu hâte de la plugger?
Oui.
Tu me non, c'est épouvantable.
On en a toutes des petites jokes de même de côté, mais c'est vrai que quand il y a un danger qui arrive, tu klaxonnes.
Ben, oui.
Puis dans les mariages aussi, tu klaxonnes.
Ben,
oui. Fait que j'avais fait comme le lien.
C'est un gros danger, le mariage. Continue de rentrer ça dans la tête des boys qu'on soit pas capable de se faire fiancer, Simonac.
C'est vrai? Il veut-tu, petit chum?
Non.
Il veut pas.
Non. Puis tu vois, ça m'a pris du temps. Hey, ça a déjà été on appelle ça un deal breaker. Là. Ça a déjà été pour moi un enjeu à un certain moment de me dire, ben là...
Ouais.
Si moi, mettons, je veux vraiment me marier dans ma vie, ça vaut-tu la peine de bâtir une relation pour être juste carrément déçu au bout du compte? J'ai réalisé bon, que c'était peut-être pas si important que ça non plus, là, mais mon chum était comme, qu'est-ce que ça va changer au final à notre relation? Dans notre quotidien, là, qu'est-ce que ça va changer? Là? Pas grand-chose. À part, mettons, avoir perdu 20 000 piastres parce que ta robe a coûté un bordel de char, puis les décorations, puis le DJ, puis toutes ces bébelles-là. À part avoir perdu de l'argent... Puis le papier, tu sais, qui fait que tu pars avec la moitié de mon argent. Il dit « ça sert à rien ». Je dis « OK, je vais-tu pour moi me fiancer? » Ça n'a pas encore passé non plus.
Est-ce que tu connais la loi au Québec advenant le cas où, je sais pas, mon petit chum, il se fait croiser dans la rue, là?
Ouais.
Est-ce que tu connais la loi au Québec versus les gens mariés et non mariés?
Ben là, si on n'est pas marié, j'ai rien. Là.
Mettons qu'on se projette dans le temps, mettons dans 20 ans. Ouais. OK, petit chum, il t'a marié ou il t'a pas marié.
Ouais.
Il y a deux choses. Parce que le Québec fait... on est un peu différent du Canada. Si t'es conjoint de fait au Canada, t'es aussi bien protégé en tant que femme mariée que non mariée au Canada. Mais au Québec, si t'es marié, l'homme ou la femme est protégé. Mais si t'es pas marié,
c'est ça.
Vous n'êtes pas protégé. Fait que si tu chum, il décède sans testament... Okay. Si tu es marié avec les enfants, c'est le tiers de l'argent de Tichum qui s'en va à toi et le deux tiers qui s'en vont aux enfants. Si tu n'es pas marié, il n'y a rien qui va à toi et tout va aux enfants.
Ouais. Ce qui est franchement compliqué, là.
Ben oui.
Quand tu as des enfants en bas âge, en plus, ouais. Là, c'est un sacré bordel.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, mon testament, je l'ai fait à partir du moment où le premier est arrivé, j'ai embarqué au testament. Après ça, le deuxième est arrivé, on a fait une modification au testament, mais c'est des choses qu'on a faites dès le départ.
Oui. Je suis jamais sûre de quand est-ce que tu dois le faire. Tu sais, on jase de temps
bien.
En temps. Oui, c'est ça. On jase de temps en temps avec Alex Leblanc, qui est planificateur financier. Puis, tu sais, je sais que lui nous racontait qu'il y avait un genre de papier qu'il avait fait. Là. J'oublie le nom du papier, mais c'est pas tout à fait un testament, mais ça peut agir comme... On n'a pas ça non plus en ce moment. Je ne sais pas c'est à quel moment dans notre relation où il faut qu'on le fasse pour se protéger mutuellement. C'est vraiment du moment, mettons, où on décide de fonder une famille. Si tu es avant, j'imagine que ça dépend aussi de ce que tu veux si un ou l'autre décède.
Ouais.
C'est compliqué.
Mais non, il faut que tu fasses tout le temps ces papiers-là quand ça va bien. Et non, quand ça va vraiment mal.
Mais il y en a beaucoup, tu sais, qui n'osent pas faire les testaments puis faire notarier ces papiers-là parce que c'est excessivement cher. Puis ils se disent, ben, j'ai pas le budget en ce moment, tout va bien, on est en vie, tout est correct. Ça sert pas à grand-chose.
C'est ça. Tu sais, moi, j'ai des couples autour de moi qui, eux autres, ils ont tout planifié leur départ si jamais il arrivait de quoi. Puis il y en a d'autres qui achètent tout à deux au départ. Je préfère la première option, c'est-à-dire, regarde, toi, achète le set de salon, moi, je vais acheter le set de chambre, toi, achète le set de patio, puis toi, t'achèteras tel autre set. Fait que comme ça, s'il se passe de quoi dans les premières années, puis vous vous séparez, vous repartez avec chacun vos affaires. Ouais. Mais à partir du moment où il y a de la chicane, mettons qu'elle t'a laissé pour un plus riche, pas pour un plus beau, mais pour un plus riche, si toi, t'es en maudit, tu vas-tu essayer de la faire payer d'une certaine façon?
Mais ça, je trouve ça malhonnête. Moi, ça, j'ai de la misère.
Mais je veux dire, la malhonnêteté, je veux dire... Ça, mettons...
Tu comprends que c'est une
ça, marde. Mettons, tu chum, t'as trompé.
Ouais.
Tu en veux, là.
Ben oui,
tu vas chercher à le faire payer par tous les moyens.
Ben, non.
Non?
Non.
OK. Ben ça, c'est parce que ça va bien.
Non, Yann, j'ai été... Hey, toutes les relations dans lesquelles j'ai été à long terme, j'ai été trompée. C'est comme ça que ça s'est terminé.
Mais t'avais-tu un loyer avec ces gens-là?
Non, pas encore. Ah, c'est ça. Pas encore.
Parce que moi, des histoires d'horreur, là, tu sais, moi, je me suis tout le temps séparé à 50-50, ça a tout le temps bien été, Audrey. Mais des histoires d'horreur de gars ou de filles qui se font avoir parce que la relation s'est vraiment mal finie. J'ai déjà parlé de mon chum, il s'est fait charger. Lui, il avait passé une entente avec sa conjointe de l'époque. Ils se sont mariés, puis elle devenait femme à la maison pour finalement tomber enceinte, pour finalement élever les enfants. Puis lui, eux autres, c'était comme les anciennes traditions qui étaient super importantes pour eux. Mais ils se sont mariés. Ça a duré un an. Il a demandé le divorce. Puis ils sont passés en cour. Puis elle a demandé un 18$ par mois pour le chat. De pension, ouais. Puis une petite pension pour elle. Ce qui lui a été octroyé, soit dit en passant, pendant quelques années, il devait payer une petite pension pour la femme qu'il a épousée pendant un an. Puis 18$ par mois pour le chat. Avec quoi tu penses qu'on l'écœurait?
Ben là, je sais pas, hein?
Pauvre petit! Mais tu sais, il y a des histoires d'horreur comme ça. Ouais, mais pauvre petit, tu sais, je sais pas pourquoi ils se sont séparés honnêtement, là. Mais tu sais, s'il l'a trompé, d'un côté, il y a des filles qui vont dire « Elle a bien fait de le faire payer! »
Ah, mais ça, je m'excuse, là, pour moi,
côté,
ça,
de l'autre côté, il y a
là...
des gars qui vont dire « Voyons, elle est donc bien méchante, tu sais. » Il y a tout le temps des petites affaires comme ça.
Mais pour moi, t'es un peu détraqué, là. Ouais. Moi, il me semble, là, tu demandais, je me fais tromper par mon chum, j'ai beaucoup de peine, je suis en motadine, mais je me dois le respect, tu comprends, de juste comme... quitter avec une paix d'esprit.
Ouais.
Fait que non, je en tout cas, c'est peut-être aussi le type de personne que t'es dans la vie, là, mais je me vois pas
En fait, 100% des gens répondraient comme toi. Mais quand ça arrive, dans la réalité, il y a des gens qui vont réagir différemment de nous autres. Parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Tu veux dire, regarde, on se chicanait, mais
ça va être beau, là.
Tes affaires, c'est tes affaires, mes affaires, c'est mes affaires. Puis si on a acheté des affaires en deux, ben, on essaie de compenser avec autre chose si c'est possible. Puis si on peut pas le faire là, tu me rembourseras plus tard, c'est pas plus grave que ça. Mais 100% des gens répondent comme nous autres. Ah non, c'est important de bien se séparer, même s'il y a de l'infidélité, tout ça. La réalité, c'est un hostie de cauchemar, puis c'est pas pour rien que au Palais de justice de Québec, il y a des causes comme ça à n'en plus finir.
Non, ça, c'est sûr. Écoute, je...
18 piastres pour le chat, je trouve ça très drôle.
Mais non, mais ça, c'est vraiment épais. Le pire, c'est que au pire, fais une garde partagée, là, mais je veux dire, t'as pas... je trouve ça... Si tu décides de le garder, t'assumes ce qui vient avec.
Là. Vous avez adopté un chien à deux. Oui. Le chien va à qui?
On a déjà parlé de ça. Puis ça a l'air vraiment ridicule, mais le premier réflexe qu'on a eu dans ces discussions-là, c'est-à-dire qu'on ferait une genre de garde partagée.
Ouais, ça va fonctionner deux, trois premiers mois.
Probablement. Ouais. Écoute, mais je... Sais-tu, je vais te confier quelque chose. Puis encore là, peut-être que ça changerait complètement s'il arrivait quelque chose un jour. Ce chien-là, c'est moi qui le voulais, OK?
Ouais.
Mon chum avait peur des chiens. Il voulait rien savoir qu'on
avait peur?
Tout. Ah oui, mon chum avait vécu un petit traumatisme avec un chien plus jeune. Puis depuis, là, les animaux, c'est bien compliqué. Puis il voulait pas de chien, bref. Puis quand on l'a eu, parce qu'on était en début de relation, on a adopté Bonhomme, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Fait que je veux dire, probablement qu'il m'aimait encore assez pour me laisser faire.
Parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas.
Oui, non, mais aujourd'hui, je vais adopter un deuxième chien. Je le gosse depuis à peu près 2 ans, puis c'est un nom catégorique.
Ah, ben il t'aime un peu moins.
C'est ça, tu sais, ça diminue avec les années.
Exact.
Sans joke.
Elle, son gage d'amour, c'est le nombre de chiens qu'elle peut adopter.
Non, mais il était encore aveuglément en amour. C'est la première année, je pouvais faire ce que je voulais.
Fait que t'en as profité.
Fait que j'en ai profité, j'ai acheté un chien. L'affaire, c'est que...
Adopté.
Oui, j'ai adopté un chien, effectivement. L'affaire, c'est que plus le temps avance, puis plus je les regarde, plus ça a l'air vraiment quétaine de même, là. Mais ils sont inséparables. Puis j'ai l'impression que peut-être que les 2-3 premiers mois, on ferait une garde partagée, mais probablement qu'il finirait avec le chien parce que mon chum s'en va, puis c'est la dépression du Golden dans le salon. Là. Fait que je me sentirais comme coupable.
C'est-tu ton chum, le maître, ou c'est toi?
Hey, c'est drôle que c'est vraiment 50-50 pour des choses complètement différentes. Tout ce qui est écoute, toutes les ordres, c'est moi. Tout ce qui est, par exemple, mettons, on va dehors se promener dans le bois, là, ce qui est proximité, c'est mon chum.
OK. Tu vois, moi, mon chien, il voit sa maîtresse comme étant sa sœur. Fait que... puis dès que je suis dans la maison, là, c'est... le général est dans la maison, fait que je monte plus ses divans, je me couche pas sur le lit.
Ouais, hein? La grosse voix, c'est mon chum qui l'a, là.
Ouais.
Mais tout ce qui est vraiment... Ah, pis je sais pas si c'est un addon, parce que nous autres, on n'a pas voulu que ce soit un chien pandémique, là, mais je veux dire, on l'a eu littéralement en décembre 2019, fait que 3 mois plus tard, c'était ça, pareil, là. Fait que, tu sais, j'ai comme eu le temps en masse de l'élever, puis d'y donner des ordres, puis d'y apprendre des affaires, puis de... Fait que peut-être que c'est pour ça que ça a été une facilité pour nous de faire 50-50. Là, on avait égal de temps pour l'éduquer.
Parlait de séparation tantôt. Dit, salut, je considère que la loi ou les règles sont mieux au Québec qu'ailleurs au Canada. Conjoint de fait ou marié, rares sont les séparations réussies, tout comme les unions réussies. Et faites pas l'autruche. La femme est plus souvent avantagée. Je considère normal de donner plus ou tout aux enfants, car ils ont ton sang, mais pas ta conjointe. Je comprends le point, là. C'est juste que si tu es en union avec ta conjointe, moi, c'est arrivé, là. Je n'étais pas marié avec la mère de mes enfants. Elle a dû, à un moment donné, tomber enceinte. Après ça, porter le bébé, ralentir son rythme au travail. Puis après ça, arrêter complètement avec un salaire qui était très diminué. Puis encore pire, pour elle, il y avait comme un 50 % où c'était du travail autonome, où elle ne pouvait pas continuer de faire ce travail-là qui était très payant pour elle. Fait que moi, je trouvais ça tout à fait normal de compenser pour le manque à gagner. OK? Ouais. Puis si elle avait décidé de rester à la maison pour les enfants, OK? Fait que là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. On est conjoint de fait, puis elle reste à la maison pour les enfants. Puis moi, de mon côté, je me pars une entreprise où je continue ma carrière, puis je prospère année après année, puis mon salaire augmente comme pas possible, puis mon niveau de vie augmente comme pas possible, mais j'en fais partager ma famille. Le jour où je sac mon camp, moi, je vais avoir fait avancer mes affaires. Je vais avoir mis des REER de côté. Je vais avoir mis des CELI de côté. Puis la fille qui a passé ma vie avec une bonne partie de ma vie avec moi, un genre de 15 ans, 16 ans, elle repart à zéro. Sérieux, Roger? Tu penses vraiment que c'est honnête, ça, de cette façon de faire-là? Moi, dans mon cas, c'est on est une équipe. Si tu choisis de rester à la maison pour les enfants, pour le bien de nos enfants, c'est correct, je vais l'accepter, je vais devoir compenser et je trouve ça tout à fait normal. Il n'y a rien de pire qu'exploiter vos conjointes, les gars.
Non, puis l'inverse est aussi vrai en passant, parce qu'il y en a des femmes qui font des plus gros salaires que leurs chums aussi, ça
oui,
existe. Là.
Puis il y a des filles qui ont abusé de leur conjoint, puis de leur ex-chum ou de l'ex-mari. Là.
Absolument,
ça existe.
Absolument. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce principe d'équipe-là, puis c'est drôle parce que après une discussion avec toi, j'ai une discussion avec mon chum. Nous autres, ça a toujours été 50-50 à maison, tu sais. Puis il est venu un moment, à un certain point, puis le temps fait que ça s'équilibre, mais où mon chum faisait plus que moi. Puis la discussion était vraiment là, ben regarde, mon amour, on a des projets de vie communs ensemble.
Exact.
Si on continue de payer 50-50 sur tout, ce qui arrive, c'est pendant que toi, tu peux faire des placements puis mettre de côté. Moi, je suis serrée raide puis j'arrive pas à mettre de côté. Fait que quand on va arriver pour des projets communs, je serais pas capable d'être prête aussitôt que tu vas l'être parce que je vais avoir besoin de plus de temps pour te rattraper en frais d'épargne, par exemple, si on parle de sous. Fait que souvent, c'est là que ça vaut la peine d'avoir des discussions justement pour s'équilibrer. Je suis tellement d'accord.
Puis ce pourcentage-là que tu as fait sans avoir d'enfants, je trouve ça bien correct, mais moi, j'ai attendu d'avoir
des enfants.
Parce que sinon, ça finit plus. Là. Je veux dire, tu vas rencontrer une fille qui fait 150 000, 200 000, 300 000. Toi, tu vas faire peut-être, je sais pas moi, mettons 45 000. Puis là, tu sors avec pendant 6 mois. Mais là, vous avez...
Ah non, mais là, attends, c'est ça.
Pour que ça soit sérieux.
Oui, exactement. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble.
Puis moi, ça a commencé à être sérieux à partir du moment où il y en a un qui est sorti de là.
OK, en moins?
Ouais.
Tu considérais pas ça sérieux avant d'avoir un kid?
Ben, je l'aimais de tout mon cœur. C'était la mère de mes futurs enfants, mais c'était pas concret.
OK, je comprends.
Que c'était 50-50, puis quand on a acheté nos maisons avec le salaire qu'on avait pour qu'on était capable de payer 50-50 de notre part. Là.
OK, je trouve ça intéressant.
Mais il n'y a rien de pire que des gars ou des filles qui abusent de leur conjoint-conjointe ou de leur ex. Là. Ça, c'est épouvantable. Puis de le nier que ça existe, là, c'est un peu de la folie. Jaser avec les gens autour de vous, là, il y en a énormément qui se sont fait trahir, qui se sont fait voler par leur ex, que ce soit homme comme femme, soit dit en passant.
Mais de là, peut-être l'importance, effectivement, de le faire, le petit papier. T'sais.
Quand ça va bien.
Oui, le exact. Petit papier. Soit le testament. Où il y a des ententes là, de conjoints de filles et compagnie.
Mais
t'as
jasé de ça
là.
Avec petit chum après une discussion avec moi?
Oui.
Faut pas faire ça.
Absolument.
Hein.
Pourquoi? Mais non, mais il y a des
parce
discussions dans la vie dire... qui te font avancer, qui te font réfléchir.
Ah oui, c'est une discussion avec moi.
Mais c'est rare. Prends-le matin.
Mais
note la date du calendrier.
Il va dire petit chum, parle plus avec Marceau. Là. Parce que ça fait une couple de fois que ça arrive. L'autre jour, je suis arrivé à une table où il y avait plein de convives. C'était des gens que j'appréciais. Puis, il y a une fille qui nous a présenté son chum que j'aimais bien, que je connaissais même avant qu'elle sorte avec. Puis, ils ont parlé un peu de leur modèle à la maison, comment ils s'organisaient pour les paiements. Puis là, lui est allé rester chez lui, dans sa maison. Puis là, je veux pas trop identifier les gens, mais ça faisait quelques... Mettons, ça fait 2-3 ans qu'ils sortent ensemble, OK?
Okay.
Puis, qu'ils habitaient ensemble. Puis là, elle payait l'épicerie, elle payait hydro, elle payait Internet, puis lui payait à la maison.
Mais c'est parce que c'est... Lisa, moi, lui, c'est un investissement, elle, non? Là.
Ben c'est ça. Moi, le tata, je t'attable. Je dis, OK, mais ça, lui, il paye sa maison depuis 2-3 ans, depuis que tu es là. Puis toi, tu payes pas le loyer, mais tu payes l'épicerie. Fait que dans le fond, tu le fais vivre, puis lui, il continue à se faire des placements. Quand j'y vais à la face de mon chum, là, mon ancien ami... quand j'y vais à... Ben, il me parle plus. Quand j'y vais à la face de mon ancien ami, je me suis aperçu qu'il savait qu'il était en train de fourrer sa blonde dans le mauvais sens. Ouais. Ils sont plus ensemble aujourd'hui.
C'est correct,
je pense. Mais tu fais pas ça.
Mais ça dépend de tes plans de vie.
Ça fait 6 mois qu'elle habite chez vous, c'est bien correct, là. Mais ça fait 3 ans qu'elle habite chez vous puis qu'elle a payé tout ce qui reviendra jamais dans ses poches. Je trouve que t'es un gars très ordinaire.
C'est un peu cheap.
Ben oui.
Mais je pense que c'est ça dépend des projets que t'as ensemble. T'sais, moi, j'ai un gars à maison qui est très... tu sais, la ligne du temps qu'on connaît, là, c'est-à-dire celle de, bon, se trouver un emploi quand t'es stable, acheter une maison. Quand t'as acheté la maison, ben là, penser peut-être à la famille, tu comprends? Une ligne du temps très... je vais dire... voyons, c'est ce que tout le monde fait, on dirait, finalement. Mm-hmm. Mais tu sais, par ces projets-là, moi, mettons, la maison, c'est pas quelque chose qui était particulier. Puis peut-être par manque d'éducation en passant, hein, je me mets à nu là-dessus. Là. Mais moi, la maison, je regardais les prix, puis je me disais, hey, pour vrai, moi, je suis bien en appart, là, que quand il y a un problème, c'est quelqu'un d'autre qui vient gérer, mais j'ai l'impression d'être chez nous, je suis en jumelé, je suis bien, tu sais. J'ai pas de problème avec le fait de garrocher mon argent par les fenêtres si j'ai l'impression que j'aurai jamais de trouble, puis que je vis bien, puis que tout va bien. Lui a évidemment pas le même discours, mais tu sais, ça a amené à ces discussions-là à cause de ça. OK, bien, si on veut une maison, moi, moment, je suis pas placée pour acheter avec les prix qu'il y a sur le marché comme bien des jeunes de mon âge. Fait que, tu sais, c'est à partir de là qu'on a décidé de faire certains ajustements pour être capable d'avoir des projets communs qui vont pouvoir se réaliser éventuellement, tu sais.
Exact. Exact. Hey, on a un gros show aujourd'hui. Je retrouve mon chum de longue date, Christian Page, l'enquêteur du paranormal qui va venir faire son tour avec nous autres. Il va parler de son nouveau livre.
Oui, j'ai tellement de questions. Parce que il sort un livre, en fait, le 23 octobre prochain, Tueur de l'occulte 2, parce qu'il a sorti un premier tome en 2019. Il écrit toutes sortes de livres, là, Christian Page. Là, puis j'en ai commencé un récemment qui s'appelle « Quand les enfants tuent », qui est complètement terrorisant, pour vrai. Là. Puis c'est toujours très, très bien fait. Tu vois que le travail journalistique a été fait derrière. C'est bien expliqué. Puis c'est plein d'histoires. Fait que c'est le fun à lire parce que tu peux te taper une histoire par soir. Tu te perds pas. Il y a une fin. Il y a un début et une fin plutôt. Moi, souvent, c'est plate à dire, mais quand c'est des gros romans, j'ai tendance à me décourager parce que je trouve pas toujours le temps de lire. Fait que je perds le fil, tu sais. Fait que ce genre de livre-là me plaît énormément. Puis bien, on va lui parler carrément, en fait, de son livre qui sort. Puis tu sais, qu'est-ce qui entre dans l'occultisme aussi. Comment le processus derrière, finalement, tu sais, j'ai entendu dire qu'il se déplaçait sur les scènes de crime, que la recherche journalistique était très, très profonde derrière. Fait que moi, ça me perturbe bien raide, ces affaires-là. Là.
Pauvre Christian.
Ah, mais pas pauvre Christian. J'imagine qu'il fait questions. Ça pour ça. Non, mais c'est parce qu'on pense pas. Moi, je préfère nier cette réalité-là.
Ouais.
Tu sais, des fois, tu fais ça volontairement. Là. Moi, le monde débile, satanisme, là, qui crée des... Je veux rien savoir.
Non.
Je suis bien dans ma petite réalité où tout le monde est beau.
Tu pourrais pas être actrice Hollywood.
Je veux rien savoir. Et là, t'as cet homme-là qui arrive avec des livres qui... Non, regarde, c'est une réalité, c'est arrivé et voici des histoires fondées. Fait que ça va être super intéressant de jaser avec lui de son livre, mais de toutes sortes d'affaires aussi. Là.
Dans quelques minutes, donc, stay tuned, les amis. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. C'est 8 degrés sur Québec actuellement pour aujourd'hui. Ce sera partiellement nuageux avec des probabilités d'averse à 60 %. Maximum de 13 ce soir, cette nuit. Minimum de 7 degrés. Et demain, vendredi, pour terminer la semaine, ben, on termine ça en positif. Alternance de soleil et nuages avec un maximum de 15 degrés.
Sur Guillaume Couture, dans les deux directions, à l'approche des ponts, il y a déjà des ralentissements. Soyez prudents dans le coin. Pour le reste, ça roule. Évidemment, n'hésitez pas.
On vient. Oh boy! Parlais avec Audrey d'immobilier tantôt, puis là, elle est en train de faire des recherches sur ça.
Ah ben là, on va acheter une maison.
Mais quelle belle maison tu m'as montré. Une belle maison sur le bord de l'eau, il n'y a rien de mieux.
C'était écœurant.
Surtout, hein? Ça ressemble à être un chalet qui a été rénové. Là.
Oui, mais c'est ça qui est particulier, ouais. Un genre de chalet locatif. Mais écoute, il y a bien du beau stock quand on s'éloigne. Saint-Alban, Saint-Casimir, de Chambeau. Oui,
puis tu sais, je l'ai toujours dit, le bonheur est en campagne.
C'est vrai, ça.
Hey, quel plaisir de le recevoir à l'émission. C'est un... on l'appelle l'enquêteur du paranormal. C'est un auteur à succès. Il a écrit plein de livres et c'est aussi quelqu'un que j'aime bien, Christian Page, qui est au bout du fil. Salut, Christian.
Salut, patronne.
Oh!
Oui, parce que c'est de même, je l'appelais. Hola, patronne! Comment ça va?
Ça va très bien.
Oui. Écoute, ton premier tueur de l'occulte, je pense que tu en as sorti des dizaines de milliers. On est-tu rendu à 20 000 maintenant?
Ben, on est dans ces eaux-là. Ça a été un très gros succès de librairie. Et comme tu le sais, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises ensemble, c'est un sujet qui me passionne un peu, c'est cette dérive des croyances dans l'univers du surnaturel.
Ouais.
C'est la raison pour laquelle j'avais fait une série télé, pourquoi j'ai fait également le premier livre, qui a connu un tel succès que les gens redemandaient. C'est vrai que dans les séries télé, j'en ai fait quand même plusieurs. On a fait 4 ou 5 saisons, d'abord à Canal D et ensuite sur Netflix. Alors, j'avais beaucoup de matériel. Pour ceux qui travaillent un peu dans le domaine de la télé, on sait bien que parfois, on a du matériel pour faire 3 heures, mais on est limité aux 45 minutes, 45 secondes de l'émission. Donc, on doit un peu départager, faire un décantage des dossiers. C'est pas toujours forcément de bon choix parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on doit mettre de côté.
Oui.
Le livre permet d'aller beaucoup plus en profondeur et c'est pourquoi aujourd'hui, à partir de mercredi prochain, les gens pourront trouver Les Tueurs de l'Occulte 2 en librairie avec plein de nouvelles histoires toutes plus incroyables les unes que les autres.
Christian, tu as commencé ta carrière très jeune, tu as déjà quelques décennies derrière la cravate, tu as ramassé des histoires, tu as une mémoire d'éléphant. Moi, ce qui me marquait à chaque fois que je travaillais avec toi, c'est de voir à quel point des fois je te posais des trucs sur lesquels je pensais que tu n'étais pas préparé, puis finalement tu es embarqué dans un des casiers de ton cerveau puis tu étais capable de me décrire avec une exactitude hallucinante les faits qui s'étaient passés à ce moment-là. Le nombre d'enquêtes que tu as faites, là, où il y a des histoires atroces qui se sont passées, parce que très souvent, tu t'es rendu sur place, là. Comment tu fais pour dormir le soir? T'as-tu de la misère? Tu repenses-tu à ça des fois?
Oui, en fait, dans le cas des crimes occultes, parce qu'évidemment, quand on aborde le surnaturel, le paranormal, c'est plus léger sur la charge émotive. On est confronté à des événements étranges, mais pas forcément qui vont nous troubler. Dans le cas des tueurs occultes et même dans le cas du tome 2 qui sort la semaine prochaine, il y a bien sûr, ce sont des histoires qui sont tout à fait terribles, mais je reste encore dans le tome 1 qui est paru en 2021, je crois.
Oui.
Il y avait un groupe de tueurs, et on en avait parlé ensemble à l'époque, c'était ce qu'on appelait les éventreurs de Chicago. Donc un groupe de 4 tueurs qui s'étaient réunis et qui patrouillaient les rues du Grand Chicago, là, élargi. On enlevait des femmes, on les assassinait, on les mutilait, on gardait des parties de corps pour en faire des rituels sataniques. Cette histoire-là, écoute, elle me marque encore aujourd'hui. Même pour les auditeurs, là, je rentre dans le bureau, je suis avec le procureur, je m'attends vraiment pas à ça. On échange l'ensemble des crimes. Et là, il me met sous les yeux le dossier de l'accusation et il y a là-dedans les photographies des scènes de crime. Il faut vraiment avoir le cœur haut placé là, pour pouvoir résister à ça. Là, j'ai vu ça, j'ai été troublé. Et même encore aujourd'hui, quand je repense aux crimes occultes, c'est encore les images de ça qui me reviennent en tête, les images des éventreurs de Chicago. Et j'avais donné une conférence à Québec après la sortie du premier livre, ou bien sûr, tu auras compris que dans le livre, je me suis un peu auto-censuré, donc on n'a pas mis de photos des scènes de crime. On a mis la photo des assassins, la camionnette qu'ils utilisaient pour enlever les femmes, mais on n'a pas mis de photo de la scène de crime. Et quand j'ai donné ma conférence à Québec, là, j'avais les photos des scènes de crime, et quand je les ai montrées, les gens dans la salle, là, je te dirais facilement, là, 70% d'entre eux là, ont détourné le regard de l'image.
J'en doute pas.
Tellement c'était choquant.
Christian,
oui.
Qu'est-ce qui entre dans l'occultisme, peut-être pour les gens qui sont moins familiers là, avec tout ce qu'on jase là?
Ouais. Quand on parle de crime occulte, moi je le prends dans le sens très élargi, hein, parce que si on discute avec les agents du FBI, par exemple, ils diront un crime occulte, c'est un crime qui était commis sur une motivation occulte, donc une croyance. Hein, j'assassine mon voisin parce que je suis persuadé qu'il est un vampire, ou moi, j'assassine le voisin parce que je suis convaincu que le diable m'a dit de le faire. Donc, on est vraiment ici dans des dérives de croyances qui vont conduire au crime. Ça, c'est la notion, disons, pure et dure du crime occulte. Il y a une version plus élargie qui est la version du crime ritualisé, c'est-à-dire que j'assassine mon voisin parce qu'il tond sa pelouse le dimanche matin et ça me tombe ses nerfs. Et une fois que je l'ai assassiné, comme je suis un sataniste, je vais lui graver un pentagramme dans la bédaine. Donc là, on a un crime qui était, en fait, la raison du crime n'est pas occulte, mais l'action après le crime, la façon dont j'ai ritualisé le crime, j'ai voulu lui donner une petite saveur occulte. Donc moi, dans le cas des crimes que je partage dans mes ouvrages, ce sont des crimes occultes à caractère élargi, c'est-à-dire qu'on a à la fois des crimes qui sont motivés principalement par une notion occulte, et d'autres crimes qui ont été ritualisés parce que l'assassin avait cette dérive de croyance. Hein. Il se débarrassait de gens qui l'agaçaient. Ça peut être une ancienne copine, un ancien collègue de travail, un voisin. Et comme il est embrigadé dans cette croyance un peu surnaturelle, bien, il va ritualiser son crime pour y donner un sens.
C'est 13 histoires dans le prochain livre que tu vas sortir le 23 octobre prochain. Est-ce que c'est un peu romancé ou non? C'est toujours
pas
vraiment
du tout
factuel.
C'est toujours très factuel. C'est un travail de pur journalisme. Donc, dans le premier, j'en avais 13. Dans le deuxième, j'en ai mis 12. Et j'ai consacré un 13e chapitre parce que je me suis rendu compte que souvent, et même avec Marceau, je faisais ça, j'évoquais une période dans les années 70 et 80 qu'on a appelée la grande peur satanique. Et j'avais l'impression que tout le monde savait de quoi on parlait. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignoraient que dans les années 80, principalement dans la première moitié des années 80, il s'est développé en Amérique du Nord une peur des satanistes. Ils étaient partout. On croyait qu'ils avaient infiltré les écoles, les centres de la petite enfance, le gouvernement. Et c'est triste parce que cette peur satanique, elle est cyclique. Hein, je veux pas entrer dans des concepts, là, je veux pas faire de politique aujourd'hui, mais on voit que la peur satanique, il suffit de brandir un peu l'épouvantail, puis elle est vite de retour. Hein. Dans les années 80, c'est une série d'événements, et particulièrement l'émancipation des femmes dans les années 70 qui ont conduit à cette peur satanique. Hein. Les femmes qui généralement étaient à la maison, prenaient soin des enfants, les voilà qu'elles sortent, elles vont travailler, elles s'émancipent. C'est la liberté sexuelle. Alors, on comprend que dans un milieu ultra-religieux, on brandit du haut des chairs dans les églises. Le diable est présent. Tout ça, c'est les actions du diable. Et peu à peu, cette peur satanique va s'imposer. Hein. Les satanistes sont partout. Et on le revoit aujourd'hui, là, hein, certains groupes politiques. Quand on nous sort des trucs genre « on contrôle les climats », il y a des méchants politiciens qui se réunissent dans des pizzas et dévorent des bébés ou les agressent sexuellement, on voit que cet épouvantail de la peur satanique, elle est quand même pas si loin que ça. Hein? On parle des années 80, mais on peut facilement l'actualiser aujourd'hui. Et j'ai consacré donc un chapitre entier dans le prochain ouvrage où j'explique cette dérive. Comment la peur satanique est apparue à la fin des années 70, début des années 80, et comment elle est toujours omniprésente. Hein? Il suffit que des gens mal intentionnés nous la ressortent, nous la secouent pour que rapidement on tombe dans le délire. Et ce délire-là, ben malheureusement, lorsqu'il dérape au maximum, il peut entraîner des actions criminelles, voire des meurtres.
Qu'est-ce qui relie les tueurs de l'occulte? Est-ce que c'est tous des hommes pour la plupart? Est-ce que c'est tous des gars qui ont eu des parents qui ont abusé d'eux?
Ah, là, tu poses, Yannick, une question qui est fascinante. Hein? Dans le cas des tueurs en série, il suffit de suivre un peu l'actualité, regarder les documentaires qui se font sur le sujet. Les tueurs en série sont majoritairement des hommes. Les hommes vont passer leur colère, disons ça comme ça, entre guillemets, ils vont passer leur colère sur les autres. Hein, il y a vite un sentiment qui se développe, c'est la faute des autres, c'est le monde à l'extérieur et je dois le détruire. Dans le cas des femmes, il y a moins de tueuses en série, il y en a quand même, mais beaucoup moins, parce que les femmes auront davantage une façon de tourner cette violence-là vers elles-mêmes. Donc, elles vont sombrer minimalement dans la prostitution, elles vont devenir toxicomanes, et ultimement, c'est le suicide. Donc, les femmes tournent cette violence-là vers elles, alors que les hommes la tournent vers l'extérieur. Donc, essentiellement, à la base, si on parle de tueurs en série, les hommes forment la grosse majorité des tueurs en série. Dans le cas des tueurs occultes, là, on le sait dans tous les domaines. On a bien sûr ce premier profil du tueur en série, donc généralement un homme âgé entre 20 et 50 ans qui décide de commettre ses crimes. Mais ce qui est la valeur ajoutée, si tu me permets cette mauvaise expression, c'est bien sûr qu'il a été embrigadé dans des croyances étranges. Très souvent, hein, ça commence à l'adolescence. Il y a la musique du diable, on écoute du AC/DC. Et là, éventuellement, on va s'intéresser à l'occultisme. Puis bon, bien sûr, les gens qui écoutent AC/DC et qui lisent des ouvrages sur l'occulte ne deviennent pas tous des tueurs en série. Mais on vient d'ouvrir une porte. Et là, évidemment, on glisse dans cet univers-là qui est absolument sombre. Et là, on se met à croire à toutes sortes de notions surnaturelles, les pouvoirs de l'esprit, les fantômes, le diable, les vampires. Et là, éventuellement, ça va. Évidemment, il y a toujours... Parce qu'il faut comprendre que sur le plan de le plan légal de la chose, c'est vrai que beaucoup de tueurs en série souffrent de problèmes mentaux. Mais sur le plan légal... Il y a une différence entre souffrir de problèmes mentaux et être inapte à subir un procès. On le comprend bien. Là, j'ai dans mon livre qui sort la semaine prochaine un tueur, par exemple, qui lui était convaincu que le monde était divisé en deux groupes. Il y avait les bons vampires et les mauvais vampires. Et éventuellement, il était convaincu que sa grand-mère était la chef des vampires. Des mauvais vampires, on a bien compris. Donc, il s'est armé d'un pistolet, il a peint des balles en or, il s'est rendu chez la grand-mère, il l'a abattu. Ensuite, il a mis le feu à la maison. Bon, j'ai laissé les gens découvrir l'histoire. Mais c'est sûr que ce type, lorsqu'il est arrivé devant les tribunaux, il avait un long passé de schizophrénie, puis de problèmes mentaux, puis il croyait à toutes sortes de dérives. Et les parents ont fermé les yeux à plusieurs reprises dans l'adolescence. Des professeurs, des gens autour de lui ont dit aux parents, « Vous savez, votre fils a de drôles de comportements et de drôles de croyances. » Et chaque fois, les parents étaient, « Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imagination, on verra ça plus tard. » Et éventuellement, on n'a jamais vu à plus tard, et ça a dérivé jusqu'au meurtre. Sur le plan légal, cet individu-là souffrait-il de problèmes mentaux? Sans aucun doute. Était-il responsable? Oui. Il était responsable dans la mesure où, quand il a commis le crime, on voit qu'il était conscient du bien et du mal. Et c'est ce qui intéresse les autorités. Lorsque l'on parle d'un procès en justice, c'est cette notion du bien et du mal qui joue en faveur ou en défaveur de l'accusé. Dans le cas présent, notre assassin, certain James Riva, a mis le feu à la maison. Il a essayé de faire disparaître des preuves. Il avait monté toute une histoire un peu abracadabrante pour justifier un détour pour se rendre à la maison de la grand-mère. Ensuite de ça, il a dissimulé l'arme du crime. Hein? Donc, tous ces éléments-là montrent qu'il était conscient que l'action qu'il commettait était mal. Maintenant, est-ce qu'il avait des problèmes mentaux? Bien sûr qu'il avait des problèmes mentaux de croire que le monde est aux mains des vampires et tout le reste. Là, on était vraiment dans une dérive. Mais en même temps, on voit que des gens autour de lui auraient pu réagir plus tôt, ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est bien souvent ce qu'on retrouve aussi dans le cas des tueurs de l'occulte. Hein, ces gens-là ne deviennent pas des meurtriers sanguinaires du jour au lendemain. Ils ont des dérives très souvent qui apparaissent dans l'adolescence. Et les parents ou les gens autour d'eux ferment les yeux en disant « c'est des troubles d'adolescence hein. ». Je pense par exemple à un jeune Britannique qui a tué la voisine, il a ouvert le poitrail. Vous allez retrouver cette histoire-là dans mon prochain livre. Il lui ouvre la poitrail. Lui arrache le cœur pour le manger et boire son sang.
Ah oui, alors?
Et lorsqu'il est arrêté, ben, évidemment, on découvre que depuis des années, il entretenait toutes sortes de fantasmes sur l'immortalité, sur les vampires et tout le reste. Et les parents le savaient, mais pour eux, c'était, ah oui, mais tous les adolescents s'intéressent à l'occulte, les adolescents s'intéressent à de la musique parfois un peu marginale, heavy metal, black metal. Et qui souvent, dans les thématiques qu'on retrouve dans ces musiques-là, c'est souvent le diable, une espèce de combat,
une manifestation Christian...
contre la droiture. Et les parents disaient, ben, c'est normal, c'est un adolescent.
Où est-ce qu'on fait la distinction? Parce que, je veux dire, on a tout un intérêt un peu, une curiosité malsaine que j'aime appeler, là, envers ces histoires-là, peut-être un peu sombres, je vais le dire comme ça, macabres.
Cruelles.
Oui, cruelles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu t'inquiètes sur ton état mental ou c'est normal, mettons, cette curiosité-là?
Ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, notre curiosité, elle est saine. Et pourquoi elle est saine, cette curiosité, comme tous les gens qui regardent des séries à la télévision sur les tueurs, puis Jeffrey Dahmer et tout le reste, des émissions qui connaissent énormément de succès? Parce que quand on voit ça, ou on lit des trucs là-dessus, On a l'impression d'être projeté dans un autre monde, un monde qui ne nous appartient pas. Hein, par exemple, si on ouvre le journal et on lit une histoire assez horrible, bon, un homme a abattu, ou une femme, peu importe, a abattu son conjoint parce qu'il l'a surpris avec un autre partenaire. C'est une histoire qu'on peut comprendre. On connaît tous, on a tous vécu des moments dans notre vie où on s'est senti trompé, humilié. Bon, ce sont des sentiments qui nous sont familiers. Ça ne veut pas dire que placé dans une situation identique, on aurait réagi avec la même violence. Mais on est capable de comprendre, d'avoir une certaine empathie ou de sympathie pour le sentiment qui est derrière le crime. Mais quand on lit une histoire comme celle de ce gamin qui assassine la grand-mère pour lui arracher le cœur et boire le sang, là, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour nous, là, on a l'impression de lire un récit qui vient d'une autre planète. C'est complètement étranger à nos sentiments que tout un chacun va vivre dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on est fasciné. C'est un récit qui ne cadre pas avec notre propre réalité. Là où on devrait s'inquiéter, c'est quand nos enfants lisent des histoires comme celle-là et trouvent ça cool.
Oh.
Là, ça donne un adolescent qui dit « Oh, un voisin a tué une voisine, il l'a dépecé en morceaux, il l'a mangé, c'est pas mal cool. » Là, quand ça commence à être cool, là, faut commencer à se poser des questions.
Je serais effrayé comme mère.
Mais tant ou si longtemps qu'on reste un peu comme quand on regarde ces crimes-là, et que notre sentiment par rapport à ça nous dit « c'est épouvantable », ben même si c'est une petite voix derrière qui nous dit « c'est épouvantable », rassurez-vous, vous êtes sain d'esprit. Il faut que ça demeure comme ça.
Comment tu trouves tes histoires, Christian, si c'est pas indiscret? On dirait que je me questionne beaucoup sur ton processus pour réussir à trouver toutes ces histoires-là un peu plus folles les unes que les autres, là.
Comme le dit Yannick, ça va faire bientôt 50 ans que je m'intéresse au paranormal.
T'as commencé très, très jeune, hein, Christian?
Oui. Écoute, j'étais en couche. Là, ça fait presque 50 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. Et évidemment, dans la littérature, dans des ouvrages spécialisés, on entend des histoires de ces dérives-là. Et c'est un peu la manière dont moi je m'inspire de ça. Il y a aussi l'actualité, hein. Parfois, c'est des articles qui vont faire une manchette en 8e page, un tout petit encadré en disant, bon, un voisin a tué sa voisine parce qu'il croyait que c'est un vampire. Bon, ça nous, hein, on lit ça, par exemple, dans le Journal de Québec, c'est un petit encadré. Bon, on lit ça, ça nous fascine, mais ça se résume à 8 lignes. Mais pour moi, les 8 lignes vont devenir une investigation. Quand moi je vois ça, là, je me dis, oh, ça se passe où? En Allemagne. OK, parfait. Je vais essayer de retrouver les témoins, essayer de retrouver les enquêteurs, les autorités qui ont pris part à l'investigation. Je veux savoir quelle est l'histoire derrière cette petite manchette anodine en 8e page du Journal de Québec, par exemple.
Christian, je veux juste revenir sur le fait qu'il y a des gens qui aiment les livres comme le livre que tu nous présentes aujourd'hui, Tueur de l'occulte, qui va être disponible la semaine prochaine, le Tueur de l'occulte 2. J'avais déjà entendu des psychologues dire que les gens qui étaient anxieux pouvaient adorer ce type d'histoire-là, que ce soit des livres ou encore des films, parce que ça les aide à se préparer si jamais il y a quelque chose qui pourrait se passer. Donc, ils vont voir le héros de l'aventure évoluer tout au long du film, exemple, puis de quelle façon lui va se sortir de telle ou telle ou telle situation dans un environnement qui est, selon eux, protégé. Puis ça a l'air que ça les aiderait, les gens anxieux. Ce serait pour ça que les gens anxieux aiment l'horreur, en fait.
Ben je confirme.
Tu confirmes?
Mais je me sens plus saine aussi quand je lis ces affaires-là. Je me dis que je ne suis pas cinglée.
OK.
Mais tu as tout à fait raison, Yannick. Hein? Ça nous permet un peu c'est un peu de relâcher cette pression du monde anxiogène dans lequel on se trouve. Hein, et sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Hein. Les gens, tu sais, quand on y pense bien, là, bon, à part toi, par exemple, ou tes collègues, hein, vous êtes dans les médias, vous avez une parole, vous avez un ascendant sur le public qui nous entoure. Hein. Vous pouvez donner votre opinion sur les ondes chaque jour. Mais le commun des mortels, on est un peu limité dans notre maison, chez nous, on regarde ce qui se passe autour de nous, des situations souvent très anxiogènes. On a vu d'ailleurs le nombre de théories du complot naître durant la période de la pandémie du COVID. Justement, on voyait cet aspect-là très anxiogène, sur le monde sur lequel on n'a pas de contrôle, qui nous place dans des situations très anxieuses. Et le fait de regarder des livres, de lire des livres ou de regarder des films où on voit justement des gens placés dans des situations excessivement difficiles, réussir à s'en sortir, ben c'est un peu pour nous une projection. On s'est dit, regarde, il y a toujours une solution quelque part, c'est possible. Et le fait que le héros survive à la fin, ben ça nous dit, il y a... Quelque part, il peut y avoir une fin heureuse. Donc, c'est pas si pire que ça. Hein? C'est toujours la question de si je me compare, ben là, je constate que c'est pas si dramatique que ça. Et ces films-là ou ces livres-là nous permettent de nous projeter un peu dans des scénarios qui sont tout à fait apocalyptiques et de s'en sortir finalement sans y laisser notre peau. Et ça, quelque part, ça a un effet apaisant sur l'observateur. Mais faut quand même pas se dire qu'en allant assassiner notre voisin, ça va nous libérer de nos anxiétés là. Hein, nos anxiétés malheureusement, dont on ne peut manifester que toutes les 4 ans en faisant un petit crochet sur un bulletin de vote. Hein. C'est un peu souvent la seule parole que l'on a pour manifester contre le monde qui nous entoure, c'est de dire je vais aller voter. C'est bien peu. Quand on pense à toutes les pressions qui arrivent de partout et qui nous étouffent.
C'est une question d'auditeur que j'ai eue sur Messenger tantôt quand la personne a su que tu étais de passage à l'émission. Quelle preuve ou quel artefact que tu as déjà eu dans ta carrière, dans tes mains, que tu t'es dit « jamais j'aurais pensé un jour que moi, Christian Page, pourrais avoir ça dans mes mains », quelque chose d'exceptionnel?
Moi, il y a deux objets qui m'ont beaucoup profondément marqué. Le premier, c'est de voir le linceul de Turin. Le linceul de Turin, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une grande pièce de lin qui fait 4,40 m de long sur 1,10 m de large, et sur laquelle on voit l'image dorsale et ventrale d'un homme barbu qui présente toutes les marques de la crucifixion et qui est considéré depuis maintenant 800 ans comme l'authentique linceul du Christ. Je ne prends pas position sur la du côté religieux. Hein, je m'engage pas là-dedans. Mais cet objet-là, qui est considéré comme une relique, quand on le voit, c'est les gens, si on ne l'a jamais vu, on pourrait être tenté de dire c'est une guenille avec une image dessus, peut-être peinte ou rossie sur le dessus du tissu, peu importe. Quand on le voit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je ne suis pas prêt à dire que c'est l'authentique linceul du Christ, mais c'est un objet dont j'avais lu, j'avais entendu parler. On le retrouve souvent dans des ouvrages qui sont consacrés à des phénomènes inexpliqués parce que le linceul pose plusieurs énigmes. Mais quand on le voit, si tu me permets là l'expression, tu tombes un peu sur le derrière. Donc l'avoir vu, ça n'a pas changé ma relation par rapport à la religion, tout ça. Mais c'est un artefact qui m'a vraiment troublé. Et l'artefact que j'ai eu entre mes mains, que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est il y a quelques années, on tournait un reportage, c'était dans le cadre d'une émission à Z-Télé qui s'appelait, je pense, Force Obscure, et j'ai eu pendant une quinzaine de minutes le manuscrit de Voynich entre mes mains.
Oh, OK. Oui.
Le manuscrit de Voynich, encore une fois, pour les auditeurs. C'est un manuscrit qui est connu depuis la fin du Moyen Âge et qui est conservé aujourd'hui dans la collection des ouvrages rares de l'université Beinecken, à l'université de Yale, la collection rare Yale qui est au Connecticut. Et ce manuscrit, on l'a redécouvert en 1912. Hein, c'est un antiquaire de Lille du nom de Wilfried Voynich qui a redécouvert le manuscrit, qui était connu depuis, comme je l'ai mentionné, le Moyen Âge. Et ce qui est particulier de ce manuscrit, c'est qu'il est très beau. C'est un manuscrit de très haute qualité, mais il est écrit dans une langue qu'on ne connaît pas, qui n'a jamais existé, qui n'existe pas. Il présente des plantes, notamment des racines, des constellations d'étoiles qu'on ne connaît pas non plus. Donc, et tous les plus grands experts en cryptographie, ceux du FBI, de la CIA, du département de la Défense, même on a fait appel récemment à l'intelligence artificielle pour décoder le manuscrit de Voynich sans y parvenir. Il est qualifié à juste titre le manuscrit le plus mystérieux du monde. Et depuis l'adolescence, j'avais lu plein de trucs sur le manuscrit de Voynich, toutes les hypothèses qu'on pouvait proposer. Mais avoir le manuscrit entre mes mains pendant le tournage d'une émission, ça fait des petits gargouillis dans le ventre, là. Je l'avais entre mes mains, je me disais, waouh, c'est le manuscrit de Voynich. Je dirais que ça tient pas mal le haut du pavé.
Ouais. Y a-tu des histoires, parce que tu sais, j'essaie de me projeter dans le temps, là, en l'an 3000 ou en l'an 4000, puis y a-tu des histoires qu'on a vécues à notre époque, là, vous et moi présentement, qui vont parcourir le temps comme Jack l'Éventreur a parcouru le temps? Tu sais, je t'écoutais l'autre jour à l'émission, tu parlais de Jack l'Éventreur, puis ouais, on va-tu avoir dans les années 2000 un genre de Jack l'Éventreur qui va faire en sorte qu'en l'an 4000, on va encore parler de cette histoire-là en disant « on sait pas qui était Jack l'Éventreur », tu sais?
Ouf, là, tu me poses une grande question de se projeter dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que si on peut peut-être se projeter dans un siècle, mais dans un siècle, je pense que si on va avoir oublié Jack l'Éventreur.
Ah oui?
On va peut-être l'avoir oublié, mais on va sûrement aussi se parler du tueur du Zodiac, qui est probablement l'équivalent américain de l'Éventreur.
Ouais.
Hein? Un tueur qui envoie des lettres, des messages codés et dont on n'a jamais vraiment réussi à décoder l'ensemble de ces messages. Mais c'est vrai que certains sont tellement courts, hein, 10 ou 15 symboles. Si t'as pas plus que ça, ça devient très difficile, voire impossible à déchiffrer. Mais néanmoins, le tueur du Zodiac demeure là, dans l'univers du crime. Je pense un tueur dont on va encore parler dans un siècle. On va probablement parler aussi de Jack l'Éventreur, mais le tueur du Zodiac a de bonnes chances de passer un peu à l'histoire de la même façon. Quant à des événements d'ordre surnaturel, là, j'ai l'impression, écoute, je ne veux pas être de mauvaise augure, là, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où la science nous apprend de nouvelles choses, je pense que de plus en plus de mystères trouvent leur solution. Je sais que c'est plate pour les amateurs de mystères, parce que les amateurs de mystères, hein, c'est des gens un peu étranges. Ils disent sur la place publique, nous voulons étudier ou enquêter sur ces mystères-là. Mais il faut sous-entendre qu'on ne veut pas que le mystère soit résolu. Et c'est pourquoi certains de ces mystères-là, qui ont mille fois été expliqués, reviennent continuellement dans l'actualité. C'est le triangle des Bermudes. Depuis les années 70, on sait qu'il n'y a rien de mystérieux dans le triangle des Bermudes.
Ouais.
Mais on aime bien revenir avec le triangle des Bermudes et ramener des histoires qui ont été mille fois expliquées, mais on essaie de nous les présenter à nouveau avec une nouvelle mouture en nous disant « Ah, c'est pas expliqué, c'est mystérieux », alors que quand on fouille, on sait très bien que ces histoires-là ont été expliquées. Et donc, je pense que au fur et à mesure où la science progresse, beaucoup de ces mystères-là qui ont traversé le temps, et c'est peut-être une des raisons pourquoi on en a de moins en moins. On a l'impression souvent que les meilleures histoires de fantômes, les meilleures histoires d'OVNI, ben, c'était des histoires qui se sont produites soit au siècle dernier ou dans les années 50, et on en a de moins en moins aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison aussi pourquoi on a de moins en moins de tueurs en série. Hein? C'est-à-dire que la science permet de les attraper après leur premier ou leur deuxième meurtre. Alors que dans les années 70, il fallait qu'ils commettent 30 meurtres avant qu'on réussisse à mettre le grappin dessus.
Ouais.
Je pense que dans les phénomènes mystérieux, paranormaux, c'est un peu la même chose. Au fur et à mesure où la science avance, ben, il y a de plus en plus de ces mystères qui commencent à trouver des explications. Je pense. Si on me projette dans l'avenir comme tu le proposes, je pense que le seul mystère d'ici quelques siècles qui va encore résister, en tout cas je le suppose, c'est « Y a-t-il une vie après la mort?
Ouais, »
Le plus grand défi auquel on est confronté, cette idée de la vie après la mort.
Oui, ce sont rares ceux qui reviennent de là et qui disent « Oui, oui, il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Là. J'ai eu tout
vu. » Oui, tu as tout à fait raison. Et combien de fois on en a parlé, hein, les fameuses expériences de mort imminente?
Oui. Mm.
Sont fascinantes, elles nous placent un peu dans l'antichambre de la mort, mais ce n'est pas la mort, c'est l'antichambre de la mort. Qu'arrive-t-il après la mort? Tu l'as bien dit, personne n'en est revenu, à part peut-être le Christ, mais personne n'en est revenu pour nous dire ce qui se passe après. Et je ne vois pas, en tout cas, au moment où on se parle, il n'y a pas eu beaucoup de progression sur cette question-là. C'est-à-dire que on a mieux affiné la recherche qui se fait autour des expériences de mort imminente. Dans certains cas, on a trouvé des explications pour justifier pourquoi les gens voient une lumière, pourquoi les gens voient leur vie défiler devant leurs yeux. Donc, on a trouvé des explications de type neurologique pour expliquer ça. Mais l'ultime question, y a-t-il quelque chose après la mort? Ça, malheureusement, on a on n'a pas beaucoup progressé devant cette question-là.
Parce que les expériences de mort imminente, ça, c'est curieux, parce que partout dans le monde, des gens rapportent avoir vu une lumière, avoir vu des gens qu'ils connaissaient, avoir revu leur vie. Puis tu me l'avais mentionné, ça, que ça a été étudié et le cerveau ne s'éteint pas comme une lumière. Il y a certaines parties du cerveau qui meurent en premier, puis la dernière partie, c'est une partie hyper importante qui pourrait nous laisser permettre que la personne continue de rêver.
Voilà, donc tu reprends exactement là où j'ai laissé, c'est-à-dire que on a maintenant des explications neurologiques à certains éléments de cette expérience-là. Hein, la zone de Broca de notre cerveau, c'est la dernière partie de notre cerveau qui s'éteint. Or, c'est la partie de notre cerveau qui conserve l'information autobiographique. Donc, si elle est la dernière partie à s'éteindre, même si les médecins disent « Ah, il y avait un encéphalogramme plat », comme tu l'as bien mentionné, ça ne s'éteint pas d'un seul coup. Donc, les parties s'éteignent les unes après les autres. Donc, si on n'a plus d'activité cérébrale ou cortex frontal, par exemple, notre zone de Broca fonctionne toujours. Hein? Elle va prendre quelques instants pour s'éteindre après les autres. Et comme c'est l'information autobiographique, ça peut expliquer pourquoi des gens se disent après avoir vécu une expérience de mort imminente, vous savez, le dernier moment que j'ai vu, là, j'ai vu ma vie repasser devant mes yeux. C'est peut-être normal, puisque la zone de Broca est une zone qui demeure très active, même après la mort, dans les minutes qui suivent la mort. Donc, ça pourrait expliquer cette notion de voir notre vie défiler devant nos yeux. Ça n'explique pas tout, mais on voit que l'avancement dans le domaine des sciences neurologiques, dans le domaine des sciences cognitives, nous permettent de mieux décortiquer l'ensemble de l'expérience de la mort imminente, sans toutefois répondre à la grande question, y a-t-il quelque chose après?
Christian, fais-moi une promesse, lorsque tu seras de passage à Québec, tu vas venir nous voir en studio. Je pense qu'Audrey a bien hâte de te rencontrer.
Mais je suis perturbée.
La promesse que je veux, c'est que je veux que tu amènes ta mystérieuse boîte à G-Book, parce qu'on va, on va expliquer ce qu'est la boîte à G-Book à Audrey, puis Audrey va ouvrir la fameuse porte.
OK, on va lui donner la surprise d'ouvrir la boîte.
Ah! Allô! C'est un rendez-vous, là!
Ouais. Ben parfait, je te promets ça, Yannick. Je vais probablement reprendre des conférences cet automne à Québec. Donc, je te laisse savoir et ça me fera un plaisir d'aller te voir en studio.
Bonne sortie de livre. Puis pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, on parlait avec Christian Page qui vient nous présenter son livre « Tueur de l'occulte 2 ». Il y a eu « Tueur de l'occulte 1 ». Ça a été un gros succès. Près de 20 000 livres vendus. C'est plus qu'un best-seller au Québec. Et là, il revient avec 13 nouvelles affaires de crimes occultes parmi les plus troublantes de l'histoire judiciaire. Donc, procurez-vous ce livre-là à partir de jeudi prochain, Christian?
Oui, à partir de mercredi prochain.
Mercredi prochain. Ouais. Voilà. C'est toujours un plaisir, Christian Page.
Merci. Salut.
Merci. Bonne journée.
Bye-bye. Pour suivre Christian Page, c'est christianpage.ca. C'est un bon raconteur. Hein?
Mon Dieu, mais j'aurais pu écouter pendant des heures. Mais là, j'ai mêlé une question. Ça m'a fucké là, les dernières minutes là, où on parlait de vie après la mort. Parce que j'étais comme, mais oui, mais c'est tout expliqué scientifiquement. Là, élimine tout le paranormal et les affaires d'esprit aussi. Là, dans le sens que...
Est-ce que c'est expliqué scientifiquement? Je ne sais pas. Mais il y a des hypothèses scientifiques qui ont été mentionnées. Et le cerveau ne se ferme pas comme une lumière.
Ouais.
Dans un studio, exemple, ou dans une pièce. Il se ferme
graduellement,
puis le dernier moment...
Mais c'est logique.
...où ton cerveau, il y a encore d'électricité, c'est là où tu rêves un peu.
Oui, c'est super logique.
Ouais.
Et là, j'entends des réflexions.
Donc après, il y a fuck all, là.
Ben, ouais, je le sais pas.
Soit dans le ici et maintenant.
Oui, c'est ça. C'est mieux de même, je pense. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont catégoriques. J'y crois, j'y crois pas. Moi, ça a toujours été quelque chose que je touchais là, avec prudence. Je le sais pas si j'y crois ou pas. Je le sais pas ce que je ressens. Je sais pas si je veux savoir. J'ai une grande curiosité, par exemple. Fait qu'il va assurément falloir reprendre cette discussion à un moment ou à un autre.
Tu sais que quand moi, j'étais jeune, on me parlait du paradis puis de l'enfer, là.
Mais oui.
Si tu étais une bonne personne,
paradis.
T'allais au paradis. Si tu étais une mauvaise personne, t'allais en enfer.
Mais oui.
Mais il n'y a rien qui déterminait à savoir si tu étais une bonne personne ou si tu étais une mauvaise personne.
Ouais.
Ça veut dire que dans ta journée, tu pouvais parfois être une bonne personne, mais tu pouvais parfois être aussi une mauvaise
personne.
Les péchés
et toutes ces affaires-là, là, on rentre dans la religion
seulement. C'est pas si loin que ça. Là.
Mais non, pas en tout. J'en ai entendu parler beaucoup du paradis puis de l'enfer. Là.
Heureusement, je crois pas à ça, fait que ça me permet de dire des niaiseries.
Tu crois pas à ça ou tu veux pas croire
non,
à ça?
Non, je crois pas à ça du tout.
Zéro pin d'or?
Non, moi je suis vraiment en plate là-dessus. Là, quand on,
quand
parle,
on est mort, on est mort, il n'y a plus personne.
C'est fini, c'est terminé.
Tu t'es jamais surpris à t'adresser à quelqu'un, mettons, que tu as aimé? Là, des fois, tu te surprends comme, mon Dieu, à regarder en haut. Là.
Oui, je le fais pour moi, mais je le fais pas pour la personne
pour
qui est décédée.
Pour tes propres croyances.
Je le fais pour moi, t'as parce rassuré. Que ça me fait du bien. Il y a des gens qui étaient autour de moi il y a quelques années qui sont malheureusement décédés. Faut de temps en temps, je leur parle, mais ça me fait du bien à moi. Je sais pas si les autres m'entendent ou si ça leur fait du bien que je leur parle.
Je te suis.
Ouais.
Hey, c'est fucké. En passant, cette discussion-là va se retrouver sur le blvd.fm.
11h09, on vient. Boulevard 102.1. Je crois qu'on parle avec Christian Page, les auditeurs qui nous écrivent pour poser une multitude de questions. Peut-être qu'on fera un genre de Q&R, là, une question-réponse avec Christian lorsqu'il sera de passage à Québec.
Fun.
Ah oui, vraiment. Puis tu sais, pourquoi... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi d'anciennes théories sont revenues à l'avant-garde avec la pandémie.
Comme?
La théorie de la Terre plate. Je pensais jamais que ça allait être ramené. Ben ça a été ramené.
Mais ça, des fois, je me demande si c'est pas juste Gigolo dans son sous-sol qui a comme envie de triper ses médias sociaux puis qui repart de quoi.
C'est une bonne question, mais il y en a énormément sur les réseaux sociaux qui embarquent dans ces théories-là. Après ça, les contrails. Les contrails, là, c'est ce que... Quand un avion passe dans le ciel, mettons un avion de ligne qui est à 30 000 pieds dans les airs, elle a des réacteurs, puis il y a une humidité dans l'air. Fait que si l'air est très saturé, s'il y a beaucoup d'eau dans l'air, ben les réacteurs qui chauffent.
Les
plus,
lignes que ça fait, là.
Plus l'eau, ben ça fait des lignes, bien entendu. On appelle ça des contrails. Mais depuis des décennies, on pense que ces avions-là, c'est des chemtrails, donc des traînées chimiques qui font en sorte que ça descend sur nos têtes, puis là, ça nous fait penser de façon différente. Tu sais.
Ça
ou
nous contrôle.
Ça nous empoisonne, ou ça fait ci, ou ça fait ça. Tu sais. Puis ça a été longtemps étudié, ça. Puis il y a encore des politiciens dans des contrées lointaines qui arrivent en disant « Ouais, c'est curieux, ça, les chemtrails, mais ils n'ont pas les connaissances qu'un pilote d'avion peut avoir, exemple. » Puis en bout de ligne, tu essaies de gazer des gens à 30 000 pieds, comment tu peux t'assurer que ça va tomber à Beauport?
Oui, c'est ça, que ça va tomber à bonne place. Non, mais c'est un
ça
bon point
peut
pareil.
Que ça tombe sur ta maison. Fait que c'est des contrails, mais eux autres, ils appellent ça des chemtrails.
Je me suis toujours demandé.
Contrails pour condensation. Ouais. Puis ces gens-là, ils croient dur comme fer que le gouvernement nous gaze dans le ciel.
Mais je me suis toujours demandé, le processus mental part d'où pour croire dur comme fer à ces affaires-là? Puis à quelque part, là, t'as sûrement déjà vu des films là, où il y a cette espèce de où ça fonctionne comme ça. Là, on n'est pas conscient, nous autres, on vit notre vie, mais dans le fond, il y a des entités, il y a du monde plus haut que nous autres qui contrôlent un peu tout ce qu'on fait, puis le destin, puis le karma. Puis ça m'a toujours effrayé, ces affaires-là. Là. Je préfère penser qu'on est en contrôle de nos propres affaires, mais
ouais.
What if? Ça t'est jamais passé par la tête de réfléchir plus loin, de dire « Hey, mettons qu'on est une gang de caves, puis dans le fond, c'est ça, tu sais. »
Je sais pas. Tu sais, je peux me perdre dans la théorie des cordes pendant...
Moi, j'aime ça, ces théories.
Théorie des cordes qui est théorie des super cordes pendant des heures et des heures, parce
c'est
que ça peut être concret. C'est des théories qui ont été amenées par des scientifiques. Ça peut être concret. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est des représentations de l'univers. Fait qu'il commence par moi puis toi qui jase dans un studio, puis après ça, le drone, exemple, là, il sort du studio, puis là, il te montre, toi, dans le building. Fait là, tu dis, crème, le building, il est gros comparativement aux êtres humains. Puis après ça, il monte, puis là, tu vois la
ça
ville.
Recule, ça
puis après
recule,
ça, tu vois
ouais.
la province.
Ouais.
Puis après ça, tu vois le pays, tu vois
puis
les autres pays autour, les océans.
Hein?
Puis après ça, ça quitte la Terre. Puis après ça, tu vois comme notre atmosphère à nous avec, je sais pas moi, tu peux mettre la lune, le soleil
ouais.
et tout ça. Puis là, après ça, les autres étoiles arrivent. Là, tu dis, la constellation, la Voie lactée, tu dis, hein, c'est donc ben gros. Puis après ça, ils sortent encore. Puis là, tu vois encore d'autres constellations. Tu dis, hein, qu'on
c'est
est
pété,
minuscule.
On est rien. Puis
bon,
des
ben,
fois,
la théorie des cordes,
vas-y.
Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, là, ces affaires-là, à la même place. Il y aurait plusieurs dimensions.
Comme s'il y avait des univers parallèles.
Ouais. Fait que c'est ça, il pourrait avoir...
Je suis
deux Audrey.
Plomb. Je suis fucking raide, là.
Ouais.
Ah, oh, bon, ça me perturbe, ces
mais,
affaires-là.
Tu sais, moi, j'ai ChatGPT pour me résumer tout ça avant, parce qu'avant, il fallait regarder comme sur Wikipédia, mettons, parle-moi de la théorie des cordes. Puis là, tu lisais, tu lisais, tu comprenais rien. Là, tu peux dire à ChatGPT, fais-moi un résumé sur la théorie des cordes. Bon, moi, ça a pris une trentaine d'écoutes, là, mais c'est quelque chose qui me passionne, moi, ça. Là.
Mais c'est comme tout ce qui est effet papillon et compagnie, là. Les,
ouais,
les,
ben ça,
le principe
on fait un
des...
film avec ça.
Oh, oui, bien, comme probablement tous les univers parallèles, ils ont fait des films avec tout aujourd'hui. Là. Mais je trouve ça particulier. Puis tu sais qu'en psychologie, ils vont utiliser ça des fois hein, dans des consultations. Ce que tu viens de dire, le fait de reculer, puis reculer, puis reculer pour voir l'ensemble, puis réaliser à quel point, hey, ce que tu choisis de faire, là, c'est pas la fin du monde. T'es rien dans l'univers. T'es pas spécial. C'est normal ce que tu ressens. Arrête de penser que tout tourne autour de toi. T'es rien.
Ouais.
Puis je trouve que ça ramène un peu à la réalité de dire, hey, c'est vrai, dans le fond, moi, le petit bout de vie que je vais vivre, là, le 85 ans, mettons, sur Terre, là, je ne change strictement rien.
Puis embarque la philosophie avec ça. Sur 100 personnes qui sont invitées à tes funérailles, s'il pleut, il y en a 50% des gens qui vont venir.
Mm.
Non, t'as pas. Sur 100, il y en a 50 qui sont invités, il y en a 50 qui vont venir. S'il pleut,
20.
La moitié de ça, presque, mettons, toi, tu dis 20, qu'il y en a, ils vont venir. Puis s'ils ont des, s'ils ont quelque chose le matin même, ils iront peut-être
c'est
pas.
C'est triste, hein?
Fait concentre-toi sur eux. T'sais.
Et toi, comme petite sur personne, tu t'en fais pour les gens autour de toi. Tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde. Puis c'est fou raide quand tu y penses. Là.
Non, philosophe, là, je suis en train de saigner du nez. C'est quoi le film avec Sean Penn qui parle du poids de, la, de l'âme? T'en rappelles-tu de ce film-là?
Sean, donne-moi deux secondes. On va le trouver.
21 grammes. Fait qu'ils ont fait un film là-dessus. Ça veut dire que quand... Puis ça, c'est une légende en passant. Là. Mais on parlait de la mort. Quand tu meurs, ça a l'air qu'il y a 21 grammes qui part. Puis ils sont pas capables de le trouver, ce 21 grammes-là.
Ton âme.
Fait qu'ils ont fait un film là-dessus en disant c'est probablement l'âme.
Mais oui, c'est l'âme.
Mais c'est pas ça nécessairement.
Mais ça, ça nous fait du bien de croire à ça.
Peut-être.
Tu sais, moi, j'ai déjà entendu des histoires de personnes décédées, puis on va ouvrir la porte ou la fenêtre de façon significative pour que l'âme puisse quitter la pièce, tu sais, qu'elle puisse aller en paix, rester en paix. C'est fou, Red.
Ça vous fait du bien, ça fait pas mal à la personne, allez-y. Autre légende.
Tu sais que je suis brûlée. Hein?
Oui, ben oui, je sais.
Je peux pas finir la semaine, là, ma tête elle surchauffe en ce moment.
Autre légende.
Oui.
On y croit ou on y croit pas, mais Sasquatch CV va s'en venir dans le studio dans les prochaines minutes.
C'est bon,
restez
ça.
Là, toi, je te dis à demain.
Oui, je vais essayer d'être là.
Ou sinon, à tantôt avec Denis. Indochine, juste pour toi et moi sur les ondes de boulevard, on revient.